Bonjour à tout le monde. Lorsque une amie m'a demandé il y a 2 semaines sur quoi tu vas prêcher, j'ai dû lui répondre je n'en sais rien pour le moment, il y a 2 semaines. Bon, mais ça m'arrive quelquefois, je ne peux pas parler pour les autres, mais je pense que le Seigneur m'a donné le bon sujet de toute façon. Il nous donne toujours quand on lui demande. Mais il faut lui demander. Voilà, c'est ça. Bon, prions. Seigneur, merci de cette opportunité d'être ensemble autour de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous te prions que tu ouvres notre cœur à ton esprit, par ton esprit, à ta parole, Seigneur. Seigneur, je te demande que tu m'aides à exprimer ta volonté dans tout ce que je fais. Et Seigneur, que nous soyons prêts à accueillir ton message. Au nom de Jésus. Amen. Bon, je vais vous parler aujourd'hui de la compassion. La compassion. Comment partager la souffrance des autres sans les juger? Sans les juger. Comment définir la compassion d'abord? Pour le Robert Plus, non seulement le Robert, mais le Robert Plus, c'est le sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager sa douleur. Et pour le Petit Larousse, c'est le sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui, la commisération. Toutes les deux définitions me semblent d'excellentes définitions qui font le complément l'une de l'autre. Dans les différentes traductions de la Bible, des textes bibliques, le mot grec « oikthymos » est quelquefois traduit par « bonté », par exemple dans la Bible du Semeur, parfois par « compassion », par exemple dans la Bible Vie Nouvelle ou la Seconde 21, parfois par « miséricorde » au singulier ou au pluriel. Dans d'autres versions. C'est un mot qui est souvent utilisé avec un autre mot grec, splanchna, j'ai mal prononcé, le mot grec pour les entrailles ou le cœur, pour désigner le siège des émotions. Voilà pourquoi le mot tendresse remplace quelquefois le mot compassion dans certains passages bibliques. Tout au début du récit biblique de l'Ancien Testament, en Exode 34:6, Dieu encourage son peuple en se décrivant ainsi: un Dieu plein de compassion et de grâce. Oui, Dieu peut quelquefois semblait loin de celui ou celle qui souffre. Mais en réalité, il peut partager nos douleurs, car il nous connaît de façon intime. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a créés, et c'est lui qui est venu partager notre humanité. En Jésus-Christ. Mais pour nous, les hommes et les femmes, être sensible aux souffrances des autres, c'est facile à dire, n'est-ce pas? Mais vraiment difficile à réaliser. Trop souvent, nous sommes tout au moins égocentriques, centrés sur nous-mêmes, sinon égoïste, enfermé dans notre petit univers individuel, notre petit univers à moi, face à nos épreuves personnelles, qui, avouons-le, semblent souvent nous suffire largement. L'esprit du jugement, de jugement du monde, ces dernières semaines, Val et moi avons passé pas mal de temps avec des amis qui, même après plus de 40 ans de témoignages de notre part, n'ont pas encore trouvé la foi. On les aime quand même, bien sûr, et eux, ils nous aiment également. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas, d'aimer ceux et celles qu'on considère comme des amis. Même si on est parfois en désaccord avec leur opinion et leurs perspectives concernant le monde, la société, la politique et bien sûr la foi et la religion. Mais ce qu'on a remarqué chez eux, c'est une forte tendance à critiquer, à condamner ou à juger, même là où les faits ne sont vraiment pas très bien établis et la situation n'est pas très claire. Quelquefois, j'avoue que c'est très frustrant pour nous et on se voit obligé de se mordre les lèvres et de rester muet pour ne pas tomber dans des discussions s'enfuit et la dispute qui mène nulle part. Malheureusement, cet esprit de jugement qui souvent prend la place de la compassion n'est pas toujours absent de l'Église de Jésus-Christ. Le commentateur de la Bible Vie Nouvelle avance une théorie très inquiétante, si elle est vraie. Je cite. Le plus souvent, nous, les croyants, parvenons à éviter les péchés extrêmes, mais nous commettons régulièrement ceux qui préoccupaient le plus Jésus. Mais ça ne devrait pas être le cas. Au contraire, ceux qui prétendent suivre l'exemple de Jésus devraient manifester dans la vie de tous les jours un tout autre esprit, n'est-ce pas ? Une mentalité radicalement différente vis-à-vis non seulement d'un monde qui ne croit pas encore, mais aussi vis-à-vis de ceux et celles du corps de Christ qui passe à travers des épreuves que souvent, nous ne pouvons guère imaginer. Je pense à un couple chrétien, marié depuis quelques années seulement, mais dont le mariage semble menacé par des malentendus et des accusations de part et d'autre. Je pense à un mari et une femme qui sont en deuil parce que leur enfant adulte, atteint d'une maladie mentale, ne les reconnaît guère plus. Je pense aussi à une famille non-croyante, mais fidèle et courageuse quand même, qui souffre terriblement de voir leur seule fille s'affaiblir progressivement à cause d'une maladie jusqu'ici inguérissable. Ce ne sont là que quelques exemples tirés de l'expérience de moi et de ma femme. Vous pourriez tous sans doute en ajouter d'autres, peut-être des cas encore plus tristes et encore plus dramatiques. Mais qu'est-ce qu'on fait face à toute cette souffrance? Et qu'est-ce qu'on dit aux victimes et à leurs proches pour les soulager, ne serait-ce que pour un moment? Quelquefois, c'est dur, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on attend d'eux quand leur prière fervente et fidèle ne semble pas être exaucée. Car avouons-le, on ne sait pas pourquoi certaines choses arrivent à telle ou telle personne, tandis que d'autres semblent mener une vie relativement tranquille et sans de gros problèmes. Ou pourquoi telle ou telle personne qu'on connaît est guérie, naturellement ou surnaturellement, tandis qu'une autre disparaît en dépit de toutes les prières offertes pour eux. La souffrance humaine reste un grand mystère, n'est-ce pas? Mais si on ne peut pas toujours identifier l'origine et la cause de la souffrance et de l'épreuve, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu n'a pas de réponse à tout cela, à savoir la foi en le Dieu de compassion, qui nous a tous créés et qui, dans sa compassion, nous a envoyé Jésus-Christ, le Sauveur du monde, pour nous donner l'exemple et nous montrer le chemin. Bon, je vais vous parler quelques instants de la compassion de Dieu. Partout dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu nous est présenté non pas comme un Dieu qui garde ses distances et nous laisse nous débrouiller tant bien que mal, mais comme le Dieu de la compassion. En Exode 34, 6, par exemple, Dieu passa devant Moïse en se proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Cette immense compassion proclamée par le prophète Daniel se manifeste devant et en dépit de la révolte de l'homme contre son Créateur. Cette compassion de Dieu face à ses enfants rebelles est viscérale, à tel point que Dieu déclare par la bouche du prophète Malachi, « J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. » Ça, c'est en Malachi 3, 17. Autrement dit, il, Dieu, continuera à montrer de la compassion envers nous-mêmes quand nous ne le méritons pas du tout. Comme nous le rappelle Ésaïe, il attend le moment de faire grâce à l'homme pour lui manifester sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu juste. C'est ainsi que le prophète Michée, en prophétisant la venue du Messie de Dieu, déclare avec joie et avec confiance, « Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. » Mais ce n'est qu'avec l'arrivée de son Fils, Jésus-Christ, sur cette terre, en tant qu'homme, et sa mort sur la croix pour nous laver de nos péchés, que la compassion et la justice de Dieu ont pu se manifester pleinement. Gloire à lui. Parlons donc de l'exemple de Jésus. C'est en réfléchissant à la compassion de Jésus-Christ qui est le modèle pour tous ceux et celles qui prétendent le suivre qu'un extrait d'une prédication récente de Jeff, notre pasteur, sur Genèse 3 et la rébellion de l'homme me vint à l'esprit. En décrivant les différents niveaux de conséquences pour les humains de leur désobéissance à Dieu, Jeff s'est arrêté sur la relation entre l'homme et la femme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je cite, c'est Jeff qui parle maintenant, bien qu'il ne soit pas là. Il dorme. Jeff a dit, en parlant de ces conséquences sur les relations entre hommes et femmes, les choix qu'ils ont faits, l'homme et la femme, les choix qu'ils ont faits leur ont fait perdre la confiance l'un envers l'autre. Ils s'accusent. Et si, avant ça, leur différence se vivait dans l'égalité et la complémentarité, c'est ce que Dieu veut, et bien maintenant que les humains font ce que eux veulent, cette différence entre homme et femme va marquer profondément et douloureusement leur relation. Et soudain, je me suis penché sur les relations que Jésus avait avec les femmes pendant son ministère sur terre. Et les rencontres qui ont transformé leur vie et ont servi en même temps de leçon pour les hommes qui étaient présents et en étaient témoins. Et évidemment, pour nous tous. Donc, je vais vous lire quelques brefs extraits de trois de ces rencontres, en ajoutant quelques remarques et commentaires qui vous montreront la profondeur et l'étendue de la compassion de notre Sauveur pour ces femmes. Il est bien possible que dans chaque cas, on va lire trois extraits, il est possible dans chaque cas, il s'agit d'une rencontre du Seigneur avec une prostituée. La prostitution étant la plus ancienne des professions humaines, instituée par les hommes dans cette société à cette époque, et encore aujourd'hui, un peu partout dans le monde, ces hommes, ces professions entièrement organisées et gérées par les hommes pour leur bénéfice et leur satisfaction. Bien sûr, ça n'excuse pas le comportement de ces femmes. Jésus sait très bien qu'il a devant lui dans chacune de ces situations que nous allons commenter, une pécheresse qui a besoin de se repentir et de quitter cette sale et triste profession. Mais derrière l'étiquette de prostituée, Jésus voit l'être humain, la femme qui souffre souvent à cause du mauvais traitement d'un homme ou des hommes et la condamnation de la société. La première de ces situations qui nous est racontée en Jean chapitre 4, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine près du puits de Jacob en Samarie. Lisons quelques versets de ce récit. Versets 7 et 9 d'abord. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » La samaritaine s'exclama. « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les juifs, en effet, évitait toute relation avec les Samaritains. Et puis, versets 16 à 18, Jésus dit, « Va donc chercher ton mari. » lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas marié, lui répondit-elle. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Verset 27. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Il s'agissait ici, alors dans ce récit, d'une femme de mauvaise vie. Peut-être. Enfin, d'après certains commentateurs bibliques, au moins on sait qu'elle n'était pas mariée à l'homme avec qui elle vivait. Peut-être en avait-elle honte et choisissait cette heure-là. C'était à midi, quand le soleil est au plus chaud, pour aller puiser de l'eau dans le puits de Jacob, afin d'éviter de rencontrer d'autres femmes plus respectables. Comme on voit bien dans la réaction des disciples quand ils reviennent au verset 27, cet entretien entre Jésus et cette femme n'était pas normal. Pas du tout. De garder ses distances de cette femme. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, un homme respectable, surtout un rabbin, ne s'adresserait jamais à une femme inconnue dans un lieu public. Si jamais les pharisiens avaient été là, qu'est-ce qu'ils auraient dit ? Deuxièmement, cette femme est samaritaine. Membre d'un peuple métissé, détesté par les Juifs, la plupart de ces gens étant le fruit d'un mariage entre les étrangers païens d'Assyrie et d'Israélites restés sur place dans le nord de la Palestine lors de l'établissement de Juda, le royaume du Sud. Donc, tout de suite, on a l'élément raciste qui joue. Et puis, il y avait la dimension religieuse. Les Samaritains avaient établi un lieu de culte sur le mont Garizim pour rivaliser à l'époque avec Jérusalem. Et puis, évidemment, ils avaient mélangé la loi reçue de Moïse avec des éléments païens. Quelle horreur pour les Juifs. En plus, cette femme est connue pour sa vie de péché et vit avec un homme qui n'est pas son mari. Il faut préciser, évidemment, que le fait qu'elle avait été mariée 5 fois avant ne prouvait strictement rien concernant son caractère ou son comportement, sinon qu'elle avait eu une vie triste et malheureuse. Certains commentateurs pensent que les 5 maris précédents de cette femme, ou certains d'entre eux, étaient peut-être décédés, ou l'avaient abandonnée, ou s'étaient divorcés d'elle. À cette époque-là, ce n'étaient certainement pas les femmes qui quittaient leur mari ou se divorçaient d'eux. Au contraire, ce privilège était réservé aux hommes. Une femme laissée sans mari, peut-être avec des enfants, était vouée à la pauvreté et à la misère. Et c'était souvent cela qui les poussait vers la prostitution, leur seul moyen de survivre si la société respectable ne s'occupait pas d'elle n'avait pas d'autre famille. Vous voyez que Jésus n'utilise jamais sa connaissance absolue de tous ces facteurs pour faire honte à cette dame ou l'exposer aux reproches. Pour lui, la bonne nouvelle de l'eau vive qu'il offre s'adresse à chacun et à chacune, quelle que soit leur race, leur religion, quelle que soit la position sociale de la personne ou ses fautes passées. Pendant tout cet entretien avec la Samaritaine, c'est la compassion de Jésus qui nous frappe et son refus de juger la personne qu'il a devant lui. La deuxième rencontre, également connue, concerne une autre femme, connue pour sa vie dissolue, selon Luc 7, 37. Lisons ensemble quelques versets de Luc chapitre 7, où Jésus est invité à manger dans la maison d'un pharisien. Versets 36 à 39 d'abord de Luc 7. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme, connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya, ses pieds, avec ses cheveux. En les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien, qui l'avait invité, se dit, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. Et c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. » Versets 44 à 47. Puis, se tournant vers la femme, il, Jésus, reprit, « Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. » Comme dit le commentateur, commentaire biblique du disciple, nous ignorons qui était cette femme qui est entrée dans la maison de Simon le pharisien et s'est mise aux pieds de Jésus, les hommes étant toujours plus près de la table à cette époque, dans un foyer juif, car la tradition que la présente comme Marie de Magdala manque de preuves scripturaires. Pourtant, il s'agit sans doute d'une prostituée connue pour sa vie dissolue. Entre parenthèses, j'ai mis, on est tenté de se demander comment une telle femme qui ne cesse d'arroser les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuyer avec ses cheveux et les embrasser, est si bien connue par un homme pieux et religieux comme Simon, et comment elle avait eu accès à sa maison. Peu importe. Ses gestes d'affection semble indiquer la présence ici, non pas d'une prostituée, mais d'une ex-prostituée. Mais ceux qui ne cherchaient qu'à juger et à condamner, et prouvaient ainsi qu'ils aimaient peu, refusaient sans doute à admettre la repentance et la conversion de cette femme et l'authenticité de son amour pour celui qui l'avait délivrée du péché. En réalité, c'est Simon le pharisien, celui qui se permet de juger cette pauvre femme si émotionnelle, si pénitente, qui a lui-même enfreint plusieurs règles élémentaires de l'hospitalité. En omettant de laver les pieds de Jésus, ça c'était un geste de politesse offert à l'invité à l'époque, de verser de l'huile sur sa tête ou de lui donner le baiser de bienvenue. Peut-être que Simon, lui, s'estimait trop respectable, trop important pour s'abaisser au niveau de Jésus. Par contre, Jésus, dans sa compassion, s'est abaissé au niveau de cette femme humble et pleine de remords. En effet, par son attitude compatissante, Jésus tire des femmes comme celle-ci de la dégradation et de l'esclavage que leur imposaient les hommes égoïstes pour leur donner la joie du pardon et l'opportunité du service. Sommes-nous prêts, alors, nous aussi, à nous abaisser comme Jésus l'a fait au niveau des gens qu'on rencontre peut-être tous les jours dans la rue ou là où on habite, les STF, les toxicomanes, enfin, des gens de mauvaise réputation pour leur apporter la bonne nouvelle de Jésus. Examinons maintenant la troisième rencontre de Jésus avec une femme prise en flagrant délit d'adultère et voyons comment la compassion de Jésus triomphe sur le jugement qu'il aurait bien pu porter sur elle. Lisons cette fois-ci le passage en entier de l'évangile de Jean au chapitre 8, versets 1 à 11. Jean 1 à 11. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple. Et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa. Vous connaissez tous l'histoire. Il se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leur question. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Encore une fois, on ne sait rien concernant cette femme. Absolument rien, sauf qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère par ces spécialistes de la loi, dont le premier motif était de trouver quelques prétextes pour piéger et accuser Jésus. Elle aurait pu être la femme de quelqu'un qui, elle-même malheureuse dans son couple et dans un moment de faiblesse, s'était trouvée dans les bras d'un autre, ou bien elle aurait pu être en effet une femme de mauvaise réputation ou une prostituée qui avait séduit un homme faible, mais jusque-là respectable. On n'en sait rien. Mais la voici ici devant le Seigneur, humiliée et ne cherchant pas à se défendre devant ses critiques et ses accusateurs, comme dans le cas des deux autres femmes dont on a parlé. Ce qui est certain, c'est que ces chefs religieux ont eux-mêmes déjà transgressé la loi en arrêtant la femme sans arrêter l'homme en question. Tout comme la Samaritaine, Jésus ne condamne pas la femme adultère, mais il ne passe pas non plus ses torts sous silence et lui déclare « ne pêche plus ». Pourtant, devant l'esprit légaliste de ses chefs religieux, qui savaient très bien, comme Jésus lui-même, que la loi romaine interdisait une telle punition, c'est en déclarant que seule une personne sans péché a le droit de jeter la première pierre que Jésus souligne l'importance de la compassion et du pardon. Face à la repentance authentique devant Dieu, ces deux choses, la compassion, le pardon, sont étroitement liées. C'est à Dieu qu'il appartient de juger et pas à nous. Notre rôle consiste à être guidé par la compassion, en examinant calmement tous les faits et devant la repentance de porter à la personne l'assurance du pardon au nom de Jésus-Christ qui a déjà payé le prix de nos péchés. Alors, je conclue, qu'est-ce que ces trois petits récits ont en commun et qu'est-ce qu'ils révèlent concernant l'attitude et le comportement de Jésus? D'abord, chacune de ces femmes avait été victime du comportement et du jugement des hommes dans une société où c'est l'homme qui domine. Deuxièmement, ces femmes reconnaissent chacune leur faute, leur péché, et avec une totale franchise et honnêteté, ne cherchent pas à s'excuser devant Jésus, qui leur montre à chacune un cœur de compassion et de pardon à l'encontre de ses interlocuteurs critiques qui ont un esprit de jugement et de condamnation. Jésus, le Fils de Dieu, qui un jour jugera le monde entier et offrira la miséricorde et le pardon de Dieu à tous ceux qui se tournent vers lui dans la repentance, ce même Jésus refuse de porter un jugement contre ces trois femmes, parce que lui, par qui et pour qui ces précieux êtres humains ont été créés, est parfaitement au courant de tous les faits de leur existence et leur passé, et sait très bien que le blâme ne réside pas seulement de leur côté. Le défi de Dieu qui nous est lancé dans ces trois récits, qui illustrent si bien la compassion de Jésus-Christ, c'est d'adopter la même attitude envers les autres, qu'ils aient une autre religion que nous, ou même qu'ils soient sans aucune foi, qu'ils soient comme la Samaritaine d'une autre race ou une autre culture, qui viennent d'une autre classe ou milieu social que nous. Alors, fini les divisions et les barrières qui nous séparent des autres. Jacques est très clair dans sa lettre, Dieu jugera sans pitié celui ou celle qui n'a témoigné aucune pitié aux autres, car la pitié triomphe du jugement. Alors, comme de simples pécheurs que nous sommes, sauvés par la grâce, nus comme nous sommes devant Dieu, et avec notre tendance à juger les autres, prions-le, implorons-le de nous donner un cœur de chair, un cœur de compassion comme Jésus, sans lequel le monde autour de nous ne sera jamais prêt à accueillir ce glorieux évangile que nous proclamons. Amen.